France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Aujourd'hui, la police des mœurs, d'abord chargée de surveiller le monde, le beau, celui des élites, ne porte plus, depuis 1974, son épithète mondain, orienté vers une autre mission adaptée à l'époque, la répression du proxénétisme et de toutes les formes d'exploitation des êtres humains. Le nom de Brigade de répression du proxénétisme, BRP, est la dénomination exacte de ce qui se compose, par exemple, des groupes cabarets ou studios contre le proxénétisme immobilier, ou GCPP, contrôle de la prostitution et de la pornographie. Bref, Alexandre Hérault nous mène sur les docks dans ce quatrième volet d'une série de reportages consacrés à la BRP sur le terrain, au bois. Les bois aussi obscurs en 2011 que les nouveaux réseaux, d'ailleurs, les nouveaux réseaux commerciaux sur Internet et à l'échelle internationale. Mais il s'agit d'abord de sécurité intérieure ici, depuis la loi de 2003 sur le racolage.
À la fin de notre dernière séance, j'ai annoncé le sujet qui serait traité ce soir. J'ai demandé aux personnes qu'il pourrait choquer de ne pas prendre l'écoute. Je réitère cette demande pour éviter toute surprise et tout reproche ultérieur. Nous allons parler de la prostitution.
C'est charmant, on ne peut plus aller nulle part sans rencontrer des putains.
Chut.
Naturellement, c'est elles qui ont raison.
Mais tais-toi donc, tu vas nous attirer des histoires.
C'est un sujet grave.
Ça va ?
Bonjour, mesdames.
Bouge pas, brigade mondaine. Donne le fric et j'oublie tout.
Il faut payer pour toucher.
Les filles qui la nuit s'offrent au coin des rues connaissent de belles histoires qu'elles disent parfois mêlant aux phrases crues des chers souvenirs que gardent leur mémoire.
Moi, je dis qu'on a tort de s'entêter. Le tapin, c'est un artisanat qui est en train de mourir. Regarde ce qu'on est devenu, des becs de gaz. Avant, on leur en vendait du rêve. Hein.
Puis on était assises.
On était au chaud.
On était chez nous.
Tu m'aimes ?
Oui, je t'aime.
Mesdames et messieurs, nous allons avoir l'honneur de représenter devant vous un grand drame social. Le spectacle vous prouvera que le vice est toujours puni.
Une semaine avec la mondaine. Alexandre Hérault, Yvon Croisier. Quatrième journée, la mondaine sort du bois.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent les filles de joie, les appellent les filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent.
Jean-Jacques Herlem, derrière ces vitres, dans votre bureau ici, au 36 Quai des Orfèvres, votre bureau de directeur adjoint, c'est-à-dire qu'au-dessus de vous, on va trouver celui qu'on appelle le Pacha, Monsieur Flèche, donc dans son rôle de directeur de la PJ parisienne. On va parler ensemble d'une de ces 6 brigades centrales, celle-là que l'on nomme encore, pour parler d'imaginaire, la mondaine.
Le premier travail de la mondaine a toujours été la lutte contre la prostitution et le proxénétisme. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, l'accent était mis dans ce travail sur notamment tous les établissements dans lesquels avait lieu la prostitution. Et c'est vrai que la bourgeoisie, peut-être d'une certaine époque, était connue, où on lui prêtait la réputation de s'encanailler facilement. Et c'est vrai donc l'aspect mondaine, cette surveillance du beau monde ou des beaux quartiers a pris un peu le pas peut-être dans l'imaginaire populaire, mais je crois que voilà, il y a quand même une constante depuis sa création, c'est fondamentalement donc la lutte contre une forme de criminalité qui est le proxénétisme.
Vous nous feriez comment ce portrait de ce Paris sur vice, comme pour reprendre l'expression là d'un des anciens patrons de la brigade mondaine, le taille en terre, à quoi ressemble ce Paris sur vice?
Alors, moi je me placerai moins du côté des clients et des vices dont ils pourraient être atteints, parce que finalement d'abord j'ai aucun jugement à porter, mais je parlerai plus des prostituées. Et donc des jeunes femmes, il y a des hommes également, qui se livrent à cette activité. Et il faut dire que c'est d'abord une forme de misère humaine que nous côtoyons tous les jours. Voilà. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions avec notamment la prostitution sur Internet et encore, mais surtout sur l'escorting, là, hein, toute cette prostitution à partir des sites d'escorte. Où là, on peut considérer qu'effectivement, il y a une forme de consentement et de choix, si on peut l'appeler comme ça, de choix de jeunes femmes, de rentrer dans ces organisations, puisque ce sont vraiment des organisations. Mais voilà, la prostitution et le pari sur vice, c'est d'abord des femmes qui, en grande détresse ou en grande misère, vendent leur charme, quoi. Hein, et donc, c'est pas pittoresque, c'est plutôt pitoyable, quoi.
Il y a quand même un petit rituel immuable, la BRP, le matin à 9h, c'est le café avec Bruno Fournier, l'arrivée de la modernité, c'est-à-dire que le café police, c'est fini, là, c'est du Nespresso. Enfin, on ne va pas faire de publicité à l'antenne, mais...
Non, je ne sais pas c'est quelle marque c'est. Non, mais c'est un rituel, oui, c'est un rituel, tous les matins. Il y a des années que c'est comme ça. Alors, ça dépend, il y a des services, il y a le petit bistroquet à côté où c'est agréable. Quoi.
C'est tout ce qu'il y a de plus calme pour l'instant au cinquième étage de ce 3 de la rue de Lutèce.
Ouais, il n'y a pas beaucoup de monde au café parce qu'il y a pas mal de monde en affaires. Les gens ont été chercher leur mise en cause au dépôt. Et puis je pense qu'ils sont en train de raider ce matin. Il y a des auditions, il y a des choses comme ça.
Aujourd'hui, alors, présentation peut-être avec vous, Bruno Fournier, de ce groupe à la tête duquel vous vous trouvez.
Voilà, c'est un groupe qui a vocation première à contrôler tout ce qui est établissement érotique, pipe show, sex shop, théâtre érotique, afin d'éviter les dérives. Et puis, deuxièmement, la deuxième vocation principale du groupe, c'est de quantifier la prostitution, essayer de voir un petit peu les évolutions de la prostitution, savoir qui est dehors, qui... Donc à ces fins, on sort assez souvent, donc pour voir s'il y a tel type de prostitution à tel endroit, telle ethnie à tel endroit, pour essayer de voir s'il n'y a pas un petit problème derrière, soit du trafic d'êtres humains, des choses comme ça.
Une sorte de vigie.
Voilà, une vigie, puis ça permet aussi d'aller discuter avec des prostituées, savoir s'il n'y a pas de problème. Savoir, on apporte de l'aide aussi en leur donnant les contacts d'associations. On peut aussi avoir des renseignements si... quelqu'un, par exemple un proxénète qui tente d'implanter des filles à tel endroit, ça peut arriver. Voilà, on a une vigie, comme vous l'avez dit.
Donc ce groupe, c'est le groupe de contrôle de la prostitution et de la pornographie. Et quand vous dites aux gens où vous travaillez, vous dites plutôt à la BRP ou à la mondaine?
Quelque chose qui est très drôle, c'est que si vous allez voir une prostituée qui a 60 ans, si vous dites BRP, ça ne lui évoque rien du tout. Vite mondaine, ah, tout de suite, c'est. Elle sait que c'est la police judiciaire et tout. Elle a plus de soucis avec les commissariats locaux qui viennent pour le racolage et qui ont pas le même rapport. Elles sont plus en mise en cause parce qu'elles sont en position de racolage éventuellement vis-à-vis de ces gens-là, nos collègues, alors que nous, on est toujours considérés comme victimes, témoins, c'est presque de la famille, on va dire. Donc, quand on leur dit BRP, comprennent pas, mondaine tout de suite, il y a le visage qui s'éclaire et puis on peut embrayer une discussion beaucoup plus facilement.
Christian Kalk, vous êtes celui qu'on appelle ici le patron.
Absolument, c'est une expression qui est consacrée pour le commissaire de police, en général chef de service.
Vous avez envie de nous présenter comment cette brigade de répression du proxénétisme, peut-être parce qu'elle n'est plus?
Tout à fait, vous faites allusion donc à cette appellation de brigade mondaine qui a été en usage un bon nombre d'années et sous lequel on désigne encore mon service. Moi, je préfère la brigade de répression du proxénétisme, puisque nous sommes vraiment centrés sur la lutte contre le proxénétisme sous toutes ses formes, hein, qu'il s'agisse de traite des êtres humains et de toute forme d'exploitation de relations sexuelles de, d'autres personnes.
Faisons ensemble la liste des différents groupes qui composent la brigade de répression du proxénétisme, avec chacun, en quelque sorte, leur attribution, même si il me semble qu'il y ait parfois des perméabilités entre groupes sur certains dossiers. Christian Calque.
Alors, tout à fait, donc il y a des perméabilités, mais chaque groupe a une spécialisation qui va en fait coller aux formes du proxénétisme. Donc vous avez deux groupes de voies publiques qui sont davantage dédié à lutter contre le proxénétisme qui va conduire des jeunes femmes à se prostituer sur la voie publique. On est ici sous des formes qui sont, je dirais, quelque part les plus...
Visibles,
et puis les plus également marquantes pour l'exploitation de la femme dans des conditions pénibles. Sur la voie publique, vous avez essentiellement, c'est 80% quand même, plus de 80% d'étrangères qui sont sur la voie publique, et ces étrangères sont victimes de traite des êtres humains. Donc on a donc de la prostitution originaire d'Afrique, essentiellement anglophone, hein, beaucoup le Nigeria, le Sierra Leone également. Hein. Et donc ces femmes vont être conduites à se prostituer sur notamment Paris, mais enfin sur l'ensemble de la France, mais en ce qui me concerne, je vous parlerai essentiellement de Paris, pour rembourser des dettes de passage. Ces dettes sont très élevées, puisqu'elles vont devoir rembourser entre 40 000 et 50 000 euros.
Les autres nationalités qui composent principalement, justement, ce visage-là de la prostitution.
Alors, vous avez ensuite donc la prostitution chinoise, qui est également, fonctionne un petit peu sous le même système, puisqu'il va falloir payer, rembourser les passeurs. Or, en général, cette jeune femme, quand elle va arriver par ses filières de passeurs sur Paris, elle va ne trouver d'emploi, elle ne parle pas français, bien évidemment, elle n'a aucun diplôme, aucune qualification, elle va en trouver du travail dans la communauté chinoise, dans la restauration, la garde d'enfants, également la confection, hein, comme mécanicienne derrière les machines à coudre. Et là, bah, le salaire, quand elles ont ces emplois-là, c'est guère plus de 400 à 600 euros, hein, pour 14 heures, 16 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. Ensuite, donc, elles sont logées dans des espèces de dortoirs, dans des conditions très difficiles, on leur reprend encore un loyer, qui est un loyer de 200 à 250 euros. Donc, très rapidement, ces jeunes femmes vont s'apercevoir que non seulement elles ne parviennent pas à rembourser ce qu'elles doivent, mais qu'elles ne gagneront jamais plus d'argent. Et là, vous avez ce qu'on appelle, entre guillemets, les grandes sœurs, qui est une prostituée chinoise, qui va orienter ces jeunes femmes pour leur apprendre à se prostituer.
Et qu'on retrouve sur les trottoirs de Belleville, principalement, un peu aussi au niveau de Strasbourg-Saint-Denis, qu'on appelait avant les marcheuses. Quand je dis ça, c'était avant peut-être la fameuse loi contre le racolage.
Alors nous, ce qui nous concerne, nous ne traitons pas, à titre essentiel, d'infraction de racolage. Hein, sur nos collègues hein, de la direction de la sécurité de la police de l'agglomération parisienne qui ont en charge ce type d'infraction. Nous ici, les prostituées apparaissent essentiellement comme des victimes du proxénétisme ou de la traite des êtres humains, et c'est sous cet angle-là que nous les accueillons.
On continue, peut-être, il nous manque une des nationalités, une des provenances pour cette prostitution sur la voie publique, qui est celle des pays de l'Est.
Alors absolument, pour la prostitution de voie publique pour les pays de l'Est, c'est essentiellement les Balkans. Et là, on reste dans une forme traditionnelle de proxénétisme violent. En général, ce sont des clans familiaux qui se trouvent dans les pays sources, qui vont... faire venir donc des familles entières, et par la violence, ont contraint leurs femmes, leurs filles, à se prostituer sur les boulevards des maréchaux parisiens.
À 9h, café ingurgité, tout le monde est à peu près arrivé, chacun est venu vous saluer. En tant que chef, Bruno Fournier, vous avez donc constaté que les effectifs étaient complets. Vous êtes d'ailleurs combien dans le groupe ?
6 actuellement. On n'est pas très nombreux.
Ah, excusez-moi. Oui, allô. Ouais, Michel, on n'est pas parti encore. Ouais, tu as le numéro de la voiture. Tu l'avais en tête, le numéro de la bagnole? Tu fais un tour et puis tu me tiens au courant. Allez, à toutes.
Donc là, concrètement, le groupe est sur le départ. Un mot sur ce début de matinée et sur cette opération en cours?
On dit en deux mots, c'est une affaire de proxénétisme et de viol. On a une prostituée qui s'est fait violer par le proxénète en même temps. Cette fille-là est repartie dans son pays d'origine et il y en avait trois à l'époque, l'été dernier. Et là, il y en a encore une qui travaille. Donc l'idée ce matin, c'est d'aller voir, en vue d'une interpellation la semaine prochaine, d'aller reprendre les habitudes de ce monsieur, ce brave homme, et de voir s'il continue à la déposer sur son lieu de prostitution, voir à quelle heure, à quelle voiture, pour qu'on ait le moins de surprises possible la semaine prochaine. Ah, il a repéré la voiture. Oui, allô? Ouais. La voiture est devant l'entrée. Bon, on peut penser qu'il a la voiture. Écoute, on va arriver, on va se mettre sur la voiture. Ok? Je t'appelle. Je vais envoyer une première équipe le rejoindre. Et puis on va y aller dans la foulée.
On prend un zoom, on y va?
Michel a repéré la voiture, il est sur place déjà.
Ouais, prenez un zoom, une voiture, vous y allez à 3.
Dans chaque groupe, il y a évidemment une armoire qui contient, j'imagine, les choses qui ne doivent pas être disposées ouvertement sur un bureau, donc les armes de service, c'est ça?
Voilà, il y a tout ce qui est matériel vidéo, photo. Oui, les armes, les GPS. Un petit peu tout.
Christian Calque, il y a parmi vos hommes une dizaine d'entre eux, 9 pour être précis, je crois, qui sont affectés à un groupe qui est un groupe mythique, très associé à ce que fut le travail de la brigade mondaine, le groupe Cabaret.
Alors absolument, le groupe Cabaret, même si l'appellation peut sembler un peu désuète, puisque leur activité couvre bien d'autres établissements aujourd'hui que les traditionnels cabarets, hein. On s'occupait de discothèques, tous les établissements qui peuvent proposer des spectacles de striptease ou d'autres activités dans la capitale. Donc ces fonctionnaires ont une mission qui va consister à faire respecter la législation, en ce qui concerne la législation sur les stupéfiants, veiller à ce que dans ces établissements il n'y ait pas de consommation et encore moins, bien sûr, de trafic de stupéfiants. Ils vont veiller également à ce qu'il n'y ait pas de dérive prostitutionnelle et, par là même, de proxénétisme au sein de ces établissements de nuit. Et ils vont également s'assurer de la tranquillité et du respect de l'ordre public. Tranquillité des riverains, respect de l'ordre public.
Autre groupe, un groupe que l'on baptise souvent le groupe réseau.
Alors le groupe des réseaux, là, on aborde la question de la prostitution discrète. Le mode d'entrée en contact avec le client s'adapte aux technologies modernes. On a connu l'arrivée du Minitel, qui a changé la donne. Et puis, le Minitel ayant été dépassé, c'est désormais l'heure d'Internet, je dirais. Et puis là, donc, avec toutes les possibilités d'offres qu'il peut y avoir sur la toile, avec des sites, bien évidemment, situés à l'étranger, puisque donc, nous n'avons pas tous la même législation et la même conception de la répression du proxénétisme. La France a une conception abolitionniste qui l'a conduit à réprimer toute aide et toute assistance à la prostitution, quelle qu'on puisse en être la forme. Donc le fait de donner accès à un site va constituer l'infraction de proxénétisme. Et puis s'il y a déplacement des jeunes femmes pour exploitation sexuelle, par exemple en France, hein, je pense à ces jeunes Russes qui sont envoyés dans des tournées, dans des appartements ou des hôtels, il y a traite des êtres humains. Et là, bien évidemment, nous sévissons.
Ensuite.
Alors ensuite, donc je vous parlerai du groupe de répression du proxénétisme immobilier. Alors, ce groupe, à l'origine, avait été créé pour lutter contre ce que vous savez, ce qu'on appelait les doublantes rue Saint-Denis, c'est-à-dire ce sont des prostituées qui partageaient leur studio, l'une servant de prête-nom pour être titulaire du bail. Alors, généralement, il y avait des réseaux de proxénétisme derrière ces jeunes femmes qui n'étaient que prête-nom. Et puis, donc, un studio pouvait voir tourner une dizaine de filles qui se succédaient. Donc, le groupe de répression de la prostitution immobilière a mis fin à cette pratique en retenant systématiquement le proxénétisme contre les femmes qui mettaient à disposition les studios et puis en travaillant en amont derrière pour tous ceux qui se trouvaient cachés derrière ces femmes. Et donc, c'est une réussite là, puisque dorénavant, à de rares exceptions près, on ne trouve plus de doublantes hein, dans le secteur de la rue Saint-Denis, rue Blondel et toutes ces petites rues de prostitution traditionnelles.
Donc, le but du jeu maintenant, c'est de trouver la voiture.
Face sur un bus touristique, une publicité pour la muraille de Chine qui s'étale devant nous, qui m'inspire une pensée profonde en partant sur place avec vous, Bruno Fournier. On a l'impression d'être une faible muraille contre, pour endiguer toutes les formes de proxénétisme aujourd'hui qui envahiraient l'espace hexagonal, dont celle d'ailleurs en provenance de Chine.
Pas une faible muraille du tout. Sur la Chine, on en a au début, donc il faut... Je pense qu'il y a des choses à connaître, ça se fait pas du jour au lendemain, ils n'ont pas la même culture, pas la même approche des choses. Mais ça vient.
On a l'impression parfois d'être obligé de se transformer en ethno-psychologue.
Ethno-psychologue, tout à fait.
Ah oui.
Ça dépend, c'est pareil, on peut pas avoir la même approche avec des gens originaires du Nigeria, par exemple. Ils ne se considèrent pas forcément de la même manière. Il y en a qui vont se considérer comme des victimes, d'autres moins. Donc elles vont pas saisir la main qu'on leur tend.
Et quand on dit comme ça, Bruno, la main qu'on leur tend, c'est-à-dire qu'on leur propose à un moment donné, à celles qui veulent se détacher de leur souteneur, de pouvoir bénéficier donc de votre protection. Il y a un deal donnant-donnant qui est établi légalement.
Oui, il y a des dispositions légales qui prévoient qu'on peut leur octroyer des papiers d'identité pour résider sur le territoire français si elles donnent des renseignements sur les réseaux, sur les choses comme ça.
Alors, en se rendant vers Saint-Cloud, sur le lieu où en ce moment vos hommes sont en train de planquer, le dispositif est mis en place, on est en train de le rejoindre, on vient de traverser, on continue presque une sorte de balade touristique puisqu'on vient de passer sous la tour Eiffel. Et des fois vous vous dites que, Bruno Fournier, que vous allez encore découvrir de nouveaux visages, de nouvelles astuces, de nouveaux pédigrés.
Oui, je pense que c'est en éternel. C'est en éternel mouvement. Hein, là. Les pays où il y a quelques problèmes, ils ont trouvé un moyen de dégager du chiffre d'affaires en mettant des filles, en trafiquant des filles. Bon, là, ça concerne le Nigeria, mais le jour où on aura entre guillemets réglé le problème, ou atténué le problème, je pense qu'on pourra avoir d'autres soucis. Peut-être pas si loin de nous, les phénomènes. Quand vous voyez des reportages télé, vous avez une escorte qui dit qu'elle peut gagner 200 euros de l'heure. On peut penser que certains petits trafiquants un peu scrupuleux risquent de mettre des filles sur le trottoir ou sur Internet. Ça fait gagner autant d'argent qu'en stup, tout ce qui est économie parallèle. Il y a un parallèle avec les stupes. Hein. Après, il y a le rapport délit commis et peine de prison à l'issue. S'ils se rendent compte que finalement le proxénétisme est moins puni que les stupes, on pourra avoir, ça c'est une supposition, hein, on pourrait avoir un revirement de la situation, et pourquoi pas, je raisonne à la place de l'individu, mais pourquoi pas se lancer dans le proxénétisme plutôt que dans les stupes. On a eu 2-3 petits cas comme ça, isolés, avec
des hommes assez jeunes, hein, 25 ans, qui ont réussi à persuader une fille, sûrement liée avec des menaces et des violences, d'aller sur le trottoir et rapporter 500-600 euros par jour. Bon, ça fait quand même des sommes assez énormes, hein, pour des jeunes de cet âge-là.
Comment vous avez vu ce visage-là de la prostitution évoluer, puisque ça fait 10 ans que vous êtes au sein de la mondaine, Patrice Massoni?
On a eu, comment ça s'appelle, une période jusqu'en 2004, avec l'arrivée d'Edouard Sarkozy, où effectivement les maréchaux étaient en particulier, et puis même le 18e arrondissement du côté de Château-Rouge était effectivement envahi de prostituées, avec l'Edouard Sarkozy et le racolage, donc ça a disparu pratiquement totalement jusque ces derniers mois. Et ces derniers mois, effectivement, on constate une recrudescence de l'arrivée des prostituées avec les réseaux mafieux qui sont derrière.
Et comment on explique ça?
À titre personnel, je pense qu'effectivement, en particulier, la Roumanie, l'arrivée dans l'Europe, plus difficile peut-être d'expulser les gens, des choses comme ça. Et donc, effectivement, je pense que les réseaux reviennent en France. Mais c'est cyclique, hein, toutes ces choses-là sont cycliques. Voilà, donc effectivement, la nature ayant horreur du vide, ils reviennent. Mais de toute façon, ça fait quand même quelques années que je suis dans la police, et j'ai bien compris qu'effectivement, ces choses-là reviennent, c'est cyclique. On n'éradique jamais vraiment le problème, on ne fait que le combattre, à un moment donné, le faire disparaître, mais ça revient toujours. Voilà. Donc effectivement, c'était qu'une question de temps, et c'est revenu. Voilà.
Avec des passeurs, avec donc ce trafic-là de chair humaine.
Il y a des choses, effectivement, il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que des réseaux hyper structurés. C'est vrai, bien sûr qu'il y a des réseaux hyper structurés, avec des passeurs, avec des gens qui menacent les familles qui sont restées dans des pays, par exemple en Afrique, dans les pays de l'Est, etc. Oui, tout ça existe, bien sûr. Mais il y a aussi des microstructures, des structures familiales, où effectivement, ce sont les filles, les sœurs, les cousines qui se font prostituer par les maris, les cousins, les frères. Voilà. Donc, effectivement, il y a tout ce genre de choses qui doivent être combattues. Mais moi, à titre personnel, c'est vrai que lorsque j'ai une personne ici qui a été torturée, violée ou qui a subi des actes de barbarie, ça paraît bien normal de se sentir concerné. Voilà. On a de vrais voyous dans la rue. Voilà.
Ouais, Michel de Bruno, je viens d'arriver, je suis un peu plus haut que toi.
Ouais, Bruno, je sais pas si t'as suivi, mais donc le mec il s'est installé côté conducteur et il s'apprête à partir. Et il part même, il démarre, j'ai l'impression. Oui, il démarre.
Donc là, on a la moto qui est devant, qui surveille plus discrètement. Voilà, une voiture devant, on a une voiture derrière aussi.
Ah, y a quelqu'un qui monte dans sa voiture.
Ouais, la fille est montée dans la bagnole. Hein. Ouais, Michel de Bruno, je le prends.
Quelle direction?
Il prend à droite au panneau alloué. Rue du Bois de Boulogne.
Le but est de pas rester trop longtemps près de lui pour pas se faire identifier.
En bas de la rue du Bois de Boulogne, à droite, au stop. Le but du jeu, c'est que j'annonce et qu'il y ait quelqu'un qui vienne me prendre le relais. Je suis dans l'impasse, il va ressortir de l'autre côté, il fait demi-tour. Ah, c'est reçu pour Bruno. A priori, il est méfiant. On va voir. S'il va la chercher, c'est bingo jackpot. Mais à condition de pas se faire mordre sur le trajet, quoi.
Parce que là, ça se dirige Bruno vers le Bois de Boulogne, c'est ça?
En général, ils ont une fille qui travaille sur le Bois de Boulogne. Donc soit elle est dans la voiture et la dépose, soit il va la chercher. Donc ça démontrera encore un peu plus son activité de proxénète. Et bon, comme on doit l'interpeller lundi ou mardi, ce serait dommage de se faire griller aujourd'hui, quoi. On est venu voir s'il avait les mêmes habitudes qu'avant. Faut qu'on reste assez prudent, parce qu'on n'est pas encore prêt. On a convenu avec le magistrat que c'était lundi, donc on va essayer de pas tout foutre en l'air.
Ouais, il a pris à droite.
Reçu pour Bruno. Ouais, moi je suis 100 mètres derrière.
Yannick, on est à la
traîne,
vous êtes dans
quelle
rue?
Rue Gaston Latouche, ça ne s'invente pas.
Ouais, mais Yannick, donc il se stationne au même endroit.
Donc ce monsieur, originaire d'un pays de l'Est qu'on ne nommera pas, a juste été faire un plein d'essence, jusque-là rien de très anormal, puis un petit tour dans les faubourgs de... Un petit tour dans les faubourgs de Saint-Cloud, chic. Un petit stop dans une place à côté de l'école maternelle. Beaucoup de parcours sinueux. Ça fait combien de temps que sur cette affaire, vous en faites des planques comme ça?
On est surtout planqué sur le lieu de passe de la fille. Celui ne bouge pas beaucoup. Et on a surtout des surveillances techniques à son égard. Téléphonique donc. Et les conversations ne concernent que le nombre de clients, le montant qu'elle a pu gagner, qu'elle a pu rapporter. Donc. Voilà.
Bien que c'est vache de bourgeois, bien que c'est vache de bourgeois, les appels les filles de joie, les appels les filles de joie. Pas tous les jours qu'elle rigole. Parole, parole. C'est pas tous les jours qu'elle rigole.
Jean-Philippe Lenormand, monsieur le commissaire, il y a toujours des moments qui stratifient les enquêtes. Alors après avoir fait cette filoche, comme on dit, cette filature à Saint-Cloud ce matin avec le groupe de Bruno Fournier. Aujourd'hui, c'est vers le bois de Boulogne que nous amènent ces compléments d'enquête. On part dans ce qu'on appelle un sous-marin, un soum en langage PJ. C'est là aussi une image qui colle à la peau de vos services, ça. Hein, une technique assez classique.
Oui, parce que, bon... Bon, d'abord, c'est facile, ça permet d'avoir des surveillances fixes sur la voie publique, de manière discrète. Bon, c'est tout relatif. Ils repèrent quand même assez vite les sous-marins. Donc il faut pas non plus y aller tous les jours ou les placer toujours au même endroit. Donc il faut s'adapter. Et parfois, changer de méthode de surveillance. Bon, je vais pas en parler ici, mais pour des groupes qui font de la voie publique, qui font des enquêtes de voie publique, comme c'est le cas ici, c'est un outil indispensable. L'expérience que vous allez vivre, elle est intéressante, parce que quand vous prenez un film policier, hein, qu'il soit français, étranger, etc., il y a la présence de ces véhicules de surveillance, mais finalement, le temps est rétréci, le véhicule, il est posé, et l'infraction est commise, les gens sont interpellés. Tout ça dans un trait de temps de 2 minutes. Mais le fait d'y aller dedans et de passer 1, 2, 3 heures avec l'inconfort qu'on connaît à ce type de véhicule, on touche du doigt la difficulté d'une enquête.
Qui est donc le temps. On y va. Quand même à 2 véhicules, à la fois le sous-marin dans lequel on est,
ouais.
Yannick, et puis devant le collègue. Donc la direction quitte la PJ le 36, ou plus précisément le 3 rue de Lutèce, direction bois de Boulogne. Alors là, ça convoque tout un imaginaire. J'allais dire, c'est un terrain de chasse classique pour la mondaine.
Ah bah c'est un haut lieu de la prostitution parisienne, donc forcément, oui. Ça,
Il y a du travail là-bas, ça c'est clair.
Qu'est-ce qu'on va faire, nous, là, aujourd'hui, dans l'un de ces moments de cette enquête qui touche à sa fin?
Bah donc là, on peaufine l'enquête et donc on apporte les dernières touches. Et là, donc concrètement, là, aujourd'hui, on va voir une des prostituées qui travaille pour le proxénète. On va la surveiller, puis voir si lui vient à son contact, la ramène, des choses comme ça. Sachant qu'on a déjà beaucoup d'éléments contre lui, c'est vraiment pour voir où il en est avant l'interpellation, quoi. C'est une mise à jour, on va dire. Je vais bientôt arriver, là.
Alors, on est avenue de Longchamp, c'est ça,
ouais.
Sur,
Tiens, fais attention, ouais.
Fais attention au micro.
Ouais, tu peux reculer un petit peu. On l'a déjà deux.
Donc, deux demoiselles qui sont là, à l'intersection de l'avenue de Longchamp. Donc, elles ne sont pas les cibles de...
Non, elles ne font pas partie du groupe qu'on vise.
Ceci dit, on les voit dans une posture qui est plus celle de la fumeuse de cigarettes que de la guicheuse, hein.
Oui, mais les clients, ils connaissent, ils savent, ils s'y trompent pas. Ah bah, elles peuvent pas non plus trop aguicher, parce qu'il y a les voix sur le racolage, faut qu'elles restent discrètes, hein.
Alors, si on fait un peu de droit,
Daniel Rigour,
il faut savoir qu'après la loi Marthe Richard en 46, la prostitution était quand même un délit. Et ensuite, ça a été supprimé. C'était un décret, je crois, de 58 qui a supprimé la prostitution. Et nous avons vu arriver donc des contraventions. Contravention de 5e classe ou 4e classe et une contravention de 3e classe. Avec un racolage actif et un racolage passif. Alors la nuance était telle que le racolage passif, c'était toute attitude de nature à provoquer la débauche. C'est-à-dire qu'une jeune femme se trouvait sur le trottoir, dans une tenue quand même, surtout en hiver, un peu courte et un peu déshabillée. Bon, le racolage actif, ça c'était un geste qui était beaucoup plus appuyé de la prostituée. Elle allait vers vous, hein, mon chéri, voilà, bon, il y avait un échange, voilà. Bon. Le problème, c'est que petit à petit, si vous voulez, on s'est aperçu, tant qu'il y avait une prostitution, comme j'en ai parlé, prostitution franco-française, où nous pouvions contrôler les prostituées, à partir du moment du phénomène où nous avons vu arriver des étrangères, souvent en situation irrégulière, donc avec des papiers d'identité plus ou moins réels, souvent falsifiés, souvent faux. Le racolage passif avec la contravention de base n'avait pas beaucoup d'effet. Et puis on s'est aperçu aussi vite fait que la contravention sur le racolage actif était idem. Alors le législateur, le politique, a décidé effectivement de durcir. La BRP a été associée au travail sur la loi sur la sécurité intérieure du mois de mars 2003. Et donc, on a décidé de faire du racolage, de devenir effectivement punissable de 2 mois de prison et de plusieurs milliers d'euros d'amende.
T'as tourné un petit peu là dans le coin, non ? Non ? T'as rien vu ? Tu l'as pas vu ?
Non, il y a pas de chance.
Normalement, elle est là. Elle est dans le coin avant le feu. En général, elle se met derrière un buisson.
Parce que je suis reparti sur la droite là-bas.
Rien du tout ? Bon. Tu restes là en attendant ? Ok. Voilà, bah c'est des choses qui arrivent. Déçu.
Il y en a une sur le banc aussi.
Non, je pense pas que c'en est.
Ah oui.
Je pense qu'elle attend le bus. Ah oui, hein, faut faire attention.
C'est pas tous les jours qu'elle rigole. Parole.
Ça cache le micro là. Merde, putain, je crois que. Elle est très méfiante et je crois que.
C'était ?
Ouais.
En blanc ?
Ouais. Ouais, Bruno ? Ouais, c'est bon, elle est près de la cascade là. Elle s'est habillée tout en blanc. Elle est dans les bois là. Elle est avec un client. Enfin, il y a un mec avec elle.
vespérale créature, effectivement, tout de blanc vêtu, qui attend à la lisière du bois. Donc là, on va attendre. L'idéal serait de le voir arriver.
Oui, bon, ça serait un petit plus pour le dossier. Par contre, faut pas trop bouger. Sinon, ça va se voir. Il y a du monde dans le camion. Et vous voyez, elle est vraiment dans les bois. Hein.
Elle vient de s'enfoncer, là,
l'intérieur. Elle est avec un mec, elle est partie. Alors, faut pas trop approcher la tête de la vitre. Si vous approchez trop la tête de la vitre, vous pouvez être vu.
Ah.
Ouais, Bruno ? Dis-moi, j'ai l'impression qu'elle est pas toute seule. Ouais, tu peux essayer de... Parce que là, il fait sombre. Donc, moi, dans le zoom, j'ai pas une visibilité superbe. Mais j'ai l'impression qu'elle est pas toute seule. Hein.
Là, il y a un client qui arrive, en tout cas.
Ouais, t'essaies de voir ça. J'ai cru voir... alors là, a priori, c'est plutôt un client qui va la rejoindre. Ouais, ça serait bien. On sera pas... Parce que quand elle va partir, vu qu'elle s'est vraiment enfoncée dans les bois, hein, elle se cache. Hein, elle est pas en... Ah putain, là... Attends, je te laisse. Attends, je te laisse.
Le client est reparti.
Ouais, Bruno, dis-moi, il y a un mec avec un haut noir et un jean bleu qui vient de sortir du bois. Ah, merde.
Le client est monté dans sa voiture, là. Il est en train de repartir.
Oui, Bruno, est-ce que tu peux me passer deux plaques, s'il te plaît? Donc, 183, Delta, Tango, 92. Ensuite, deuxième véhicule, Alpha, Tango, Delta, 83, Tango.
Yannick, c'est l'heure où tous les chats sont gris, là. Ça y est, le soleil s'est définitivement couché. On voit plus que des ombres. C'est
voilà,
pas facile d'observer.
Non, le problème, c'est ça. C'est que c'est mis dans les bois, donc ça va pas faciliter les choses.
Donc le sous-marin est positionné à la lisière du bois. Rien ne le distingue d'un autre véhicule. Et puis on attend à l'arrière du véhicule grâce à un système de dégivrage qui est indépendant du moteur, puisque le moteur est à l'arrêt, évidemment. On arrive à entreapercevoir encore quelques formes. L'avantage est qu'elle est... Votre cible est toute de blanc vêtue, donc on voit encore parfois apparaître, se dessiner sa silhouette. Il y a un étrange balai autour. Hein.
Voilà, il y a un autre client qui va là. Celui qui est venu en voiture, il a fini. Le deuxième va prendre le relais.
Aussi rapidement que ça.
Bien que se vache de bourgeois. Bien que se vache de bourgeois. Les appels, les filles de joie. Les appels, les filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Parole. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Oh.
Est-ce qu'on est serré?
Mais ça, c'est finalement le plus vieux manège du monde auquel on assiste, là. Hein.
Ah là, bah oui, puis ouais. En plus, c'est de la prostitution de rue, oui, là, c'est vieux, tout ça.
On peut parler ensemble, Jean-Jacques Herlem, ici à la sous-direction de la police judiciaire parisienne, dont vous avez le poste, en charge de ces six brigades centrales, de chiffres et d'objectifs aussi que vous donneriez aux hommes de la brigade de répression du proxénétisme.
On ne donne pas d'objectifs, ou en tout cas d'objectifs chiffrés. Ça n'a pas beaucoup de sens quand on fait un travail qui repose sur l'initiative et sur l'enquête. On ne peut pas présumer du temps que l'on va passer et finalement du résultat que l'on va avoir. Alors, pour autant, on suit l'activité année après année et on voit bien quand même si un service est performant ou ne l'est pas. Mais on n'est pas sur des objectifs chiffrés. Par contre, il y a véritablement un objectif d'adaptation. La prostitution évolue dans ses formes, dans l'origine des jeunes femmes, des femmes tout court, qui se livrent à la prostitution, dans les lieux où elles se pratiquent. Et il faut vraiment que l'on soit réactif que l'on soit capable de se réorganiser, de se refixer d'autres priorités. La prostitution, pour une grande partie, se produit sur la voie publique, ou un retentissement sur la voie publique, même si les prostituées sont en camionnette, sont dans les bois, sont dans les salons de massage ou sont dans des appartements. À un moment donné, ne serait-ce que la recherche du client se fait sur la voie publique. Et donc, il y a des nuisances pour les riverains, pour les gens qui habitent les quartiers où se déroulent ces formes de prostitution. Il y a donc une grande sensibilité relayée par les élus. Et ce sont d'ailleurs des choses difficiles à concilier, puisque la prostitution n'est pas interdite. Donc j'ai la conviction que nous devons véritablement continuer de travailler sur toutes les formes de prostitution, et donc toutes les formes de proxénétisme, et que faisant cela, véritablement, on contribue à améliorer une situation, et je pense que on rend le sort des prostituées quand même un peu meilleur. Voilà, j'en suis sûr.
Retour dans le bureau du groupe de contrôle de la prostitution et de la pornographie, le groupe de Bruno Fournier, Yannick, et puis on vous a quitté hier à l'Orée du Bois, j'allais dire, on commençait nous à devenir presque envahissants, puisque vous avez fait un peu de terrain à pied, la jeune fille a été abordée, donc au bout d'un moment le dispositif de surveillance a été levé, d'ailleurs personne n'est venu la chercher je crois, c'est ça ?
Non, elle est rentrée à pied. Eux, comme vous avez vu, c'est surtout une gestion par téléphone de sa prostitution, sachant que bon.
C'est-à-dire que ce matin, on vous retrouve et effectivement, vous êtes en train de décrypter ces conversations qui ont été d'ailleurs minutieusement traduites par le traducteur roumain.
Voilà. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Alors c'est un téléphone, donc j'explique quand même, que la fille utilise, et ça ne sert uniquement, mais vraiment uniquement, qu'à une seule chose. Ça permet aux proxénètes de contrôler les mouvements et de vérifier l'activité de la fille. Ça ne sert à rien d'autre. Donc elle, la fille, l'utilise pas, par exemple, pour appeler des amis ou quoi que ce soit, non. Uniquement pour contrôler sa prostitution.
Ce qui est très pratique d'ailleurs pour vous au niveau des écoutes, ça, que ça soit fait
voilà,
de cette
fait.
Manière-là.
Voilà, ouais. Voilà. Bah déjà, la grosse difficulté, c'est d'avoir le renseignement qui nous permet d'obtenir son numéro de téléphone. Ça, c'est difficile. Parce qu'il est bien évident qu'ils n'utilisent pas des téléphones qui sont à leur nom. Ça, c'est la grosse difficulté, c'est avoir la bonne information. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Hein. Donc là, en fait, c'est des conversations en rom. Voilà. Voilà. Donc là, elle lui donne pour instruction de rentrer du travail. Hein. Donc vers 20h, hein, ça correspond à la surveillance qu'on a fait. C'est les heures où elle rentre, vers 20h.
Alors si je lis la traduction, moi je fais le rôle du proxénète et vous êtes la fille Yannick. Alors, allô ?
Est-ce que tu arrives ?
Maintenant j'arrive, ma chère.
Toi, quand je te dis de venir, tu viens tout de suite. Pourquoi tu ne viens pas ?
Mais qu'est-ce que tu veux ? Quand tu me l'as dit, j'étais déjà sur le chemin. Alors quoi ?
Non, chérie, quand je t'appelle, tu dois venir tout de suite. Rien d'autre, nom du diable. Rien d'autre.
Ok.
Tu dois partir d'ici tout de suite, je suis là depuis une heure.
Maintenant, je pars très vite d'ici. Alors là, je me suis en fait, on s'est transformé je me suis transformé en fille, moi.
Non. C'est XF1, c'est la prostituée. XF2, en fait, c'est l'épouse du proxénète principal. Mais c'est elle qui s'occupe du contact avec la fille.
D'accord.
Donc là, elle lui donne pour instruction de revenir. Et on voit après que la conversation, puisqu'elle va pas assez vite, ça montre quand même assez la dureté. Bon, là, il lui dit que s'il se dépêche pas, là, il lui casse les dents. Enfin, voilà, ils sont quand même assez durs avec elle. Hein.
Ah ouais, ne fais aucun commentaire, sinon je te casse les dents.
Voilà. Elle est totalement soumise au couple. Hein. Donc, elle se prostitue. Mais en plus, c'est elle de s'occuper de l'enfant. Et c'est elle de faire le ménage de la maison. Donc, c'est vraiment la femme à tout faire. C'est elle qui ramène l'argent du boulot, en plus. Voilà. Là, il l'appelle. Il demande, qu'est-ce que tu fais ? Ce que j'ai fait ? J'étais avec un, donc pour l'instant... Il demande combien de personnes elle a fait à 15h55, elle dit 2. Et puis, voilà, c'est toute une succession d'appels où elle demande le nombre de clients qu'elle a fait. Ça leur permet de visualiser les gains et de savoir où elle en est dans l'activité. Voilà.
Les tarifs voilà. Pratiqués dans ce bois de Boulogne, alors ?
C'est 20 euros la pipe et 50 l'amour.
Bien que c'est vache de bourgeois, bien que c'est vache de bourgeois, les appels les filles de joie, les appels les filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent.
Bruno Fournier, ce qu'on a pu observer il y a un mois à l'orée du bois, là-bas, au bois de Boulogne, dans ce sous-marin, ce qu'on a pu vivre ensemble aussi, cette filoche à Saint-Cloud, n'était que des petits éléments d'une enquête plus longue. Un mois plus tard, on en est où ? Et qu'est-ce qu'on peut dire, surtout sur ce genre d'affaires ?
On en est que l'affaire a été réalisée la semaine d'après votre passage. En l'occurrence, on a procédé à l'interpellation du couple de Saint-Cloud, la prise en charge de la fille sur son lieu de prostitution, donc en simultané. La fille a été confiée aux services sociaux après avoir été entendue, ce qui était difficile parce qu'elle était un petit peu fragile psychologiquement. Le couple a été entendu aussi, on a retrouvé un tas d'éléments qui ressortaient sur les déclarations, sur les plaintes, sur les choses comme ça, telles des armes avec lesquelles la mise en cause principale a menacé les filles. Donc le couple a été déféré devant les autorités judiciaires et placé en détention. Voilà, donc l'enquête se poursuit. On a d'autres victimes à identifier, à voir, mais qui seraient dans leur pays d'origine. Donc affaire à suivre, encore quelques mois je pense.
C'est ce qu'on appelle une belle affaire ?
Bon, c'est une affaire, il n'y a pas d'affaire plus belle dans ce genre de domaine. Là c'est une affaire qu'on peut considérer comme socialement utile, eu égard à la personnalité, à la fragilité des victimes. Donc là on n'est pas dans le cas de l'entraide pour des prostituées, on est vraiment dans les cas les plus sordides, quoi, avec du trafic d'êtres humains, des viols, des choses comme ça.
On se dit quoi ? Que cette affaire-là, évidemment, est maintenant chassée par une autre et qu'à nouveau, on va devoir, Bruno Fournier, tel des vigies, opérer toujours dans ce sens-là ?
Oui, bien sûr. Après, ça dépend. On va pas dire qu'on vide l'océan à la petite cuillère. Mais non, là, on est satisfait de cette affaire, par exemple, parce que elle était socialement utile, entre guillemets. Après, oui, il y a d'autres affaires qui vont arriver, qui vont chasser les autres, et on aura sûrement les mêmes, pas toutes les semaines non plus. On en aura des plus simples, des moins sordides. Et puis, on ne sait pas sur quoi on va tomber demain. Donc, bah, une affaire comme ça, c'était intéressant. C'était des mois d'enquête, et puis on a un petit peu sauvé des eaux quelques jeunes femmes qu'on avait besoin, quoi. Puis on a les services sociaux derrière qui ont fait leur boulot, qui les ont pris en charge, qui les ont envoyés dans leur pays d'origine, qui leur apportent aussi un soutien juridique. Donc c'est important aussi pour punir éventuellement les gens qui leur ont fait beaucoup de mal dans le cas de ce dossier, en tout cas.
Une semaine avec la Mondaine, quatrième et dernière journée, fin. Attachée d'émission, Christine Gedge et Laure-Hélène Plancher. Remerciements à Henri Moreau de la préfecture de police de Paris. Sur les docks, Alexandre Hérault, Yvon Croisier.
La Mondaine sort du bois, c'était une émission sur France Culture diffusée la première fois le 14 avril 2011.